L'un des rôles d'un avocat est de dénicher de derrière les fagots des circonstances atténuantes convaincantes pour la conduite coupable de son client. Il plaidera, disant par exemple, « Le pauvre, il a été maltraité dans sa petite enfance, il n'a pas eu de chance », etc. Comme si ce genre d'argument pouvait excuser tout et n'importe quoi. Mais je connais aussi des personnes qui sont toujours prêtes à absoudre ceux dont le comportement est pourtant hautement condamnable. Entre les prophètes de l'Éternel, et le ton change, car ils sont unanimes pour dire que devant le Dieu trois fois saint, à qui nous devons rendre des comptes, aucun manquement à sa loi ne sera toléré, ce qui nous place tous sous sa condamnation. Nous arrivons au troisième chapitre du livre de Michée, où le prophète donne un discours qui est spécialement prononcé contre les chefs du peuple qu'il a déjà censuré et dont il énumère ici les différentes classes. Ce chapitre se compose de trois strophes de quatre versets chacune. La première condamne les princes et les magistrats qui oppriment le peuple. La seconde s'en prend aux faux prophètes qui égarent les grands en les confortant dans leurs péchés par des promesses mensongères. La troisième est dirigée à la fois contre les princes, les faux prophètes et les prêtres, auxquels Michée annonce sans nuance la destruction complète de Jérusalem et du Temple, juste punition de leurs crimes. Je commence à lire le chapitre 3. Et moi je dis, écoutez donc, chef de Jacob et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Verset 1. Le nom Jacob représente ici les Israélites des deux royaumes. Les mots « et moi, je dis » marquent la continuation de la sentence de condamnation du chapitre précédent que Michée a interrompu pour annoncer au peuple la promesse d'une délivrance de l'exil babylonien et surtout pour annoncer, à la fin des temps, le grand retour de la diaspora. Au travers des Écritures, le plan de Dieu pour le futur lointain n'est pas donné pour informer les Israélites ou pour satisfaire leur curiosité, mais pour les motiver à conformer leur vie à ce que Dieu attend d'eux. C'est également vrai pour nous. Maintenant, Michée va préciser les menaces déjà énoncées. Il ne développera les promesses de rétablissement qu'il a brièvement esquissées qu'après avoir mis à nu l'iniquité odieuse des classes dirigeantes et annoncé avec une impitoyable précision le châtiment dont il n'a parlé jusqu'ici qu'en termes brefs et généraux. Michée s'adresse aux princes, aux chefs de tribus et de familles, auxquels il incombait, avec les prêtres mentionnés plus loin, de connaître le droit et de le faire respecter afin de bien gouverner et d'administrer la justice selon la loi de Moïse. Dans le Proche-Orient ancien, la fonction de magistrat ou de juge était exercée par les responsables politiques. Partout en Israël se trouvaient des lieux de proximité où étaient traités les litiges et les transgressions. Les Écritures nous donnent comme exemple la manière dont le roi Josaphat a organisé le système juridique de Juda. Je lis le passage. Il établit des juges dans toutes les villes fortifiées du pays de Juda et leur donna les instructions suivantes. Veillez avec soin à ce que vous faites, car ce n'est pas pour des hommes que vous prononcerez des jugements, mais pour l'Éternel, et il vous assistera lorsque vous rendrez la justice. Maintenant, agissez comme révérant l'Éternel, et soyez circonspect dans tout ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par des cadeaux. De même, à Jérusalem, Josaphat établit quelques-uns des Lévites, des prêtres et des chefs de groupes familiales d'Israël dans la ville pour rendre la justice au nom de l'Éternel et pour régler les litiges entre les habitants de la ville. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous remplirez vos fonctions dans le respect de l'Éternel, pour agir consciencieusement et avec une entière intégrité de cœur. Chaque fois que vos compatriotes, demeurant dans leurs villes respectives, porteront un litige devant vous, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une contestation au sujet de la loi, d'un commandement, d'ordonnance ou d'article de droit, vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que l'Éternel ne se mette pas en colère contre vous et contre vos compatriotes. Agissez de cette manière et vous serez irréprochables. Pour toutes les affaires religieuses, vous avez à votre tête le grand prêtre Amariahu et pour les affaires civiles ou royales, c'est Zebadiahou, fils d'Ishmaël, gouverneur de la tribu de Juda. Des Lévites seront à votre disposition comme commissaires. Mettez-vous donc courageusement au travail et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. Fin de citation. Pour les cas graves ou complexes, les plaignants devaient se rendre au temple de Jérusalem pour consulter les prêtres. Je lis le passage. Si se présente une affaire de meurtre, de litige, de coups et blessures ou quelque autre affaire qu'il est trop difficile au tribunal local de traiter, vous vous rendrez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi. Cependant, Michée reproche au chef du peuple de ne pas appliquer le droit, ce qui est grave, car si eux, chargés de le faire respecter, ne s'y conforment pas, qui le fera? Je continue le texte. Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple. Vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Verset 2. Michée prolonge l'image du chapitre précédent quand il a comparé le peuple à un troupeau de brebis. Et il est très mordant, c'est le cas de le dire. Mais il faut savoir que les chefs de Juda se comportaient comme des gens dont les dents sont des épées et les crocs des couteaux pour dévorer les malheureux et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. Fin d'une citation. Ces dirigeants ne tenaient aucun compte du droit le plus élémentaire et se conduisaient en boucher plutôt qu'en berger. Michée les compare à des loups aux dents acérées qui déchirent la peau des animaux sans défense et arrachent leur chair pour la manger. Il décrit à la fois les injustices d'ordre légal commises par les juges et les méfaits privés des chefs du peuple, leurs actes de violence contre les faibles, les procès ruineux intentés aux pauvres, l'usure et toutes les exactions dont peuvent se rendre coupables ceux qui détiennent le pouvoir. D'autres prophètes condamnent également ces formes de rapine, de pillage et d'extorsion dignes des flibustiers les plus sanguinaires. Le prophète Amos, qui a prophétisé contre les grands d'Israël Nord, a écrit « L'Éternel dit ceci, Israël a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour un morceau de pain. » Ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière et ils faussent le droit des humbles. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage. Et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Et le prophète Ésaïe, contemporain de Michée, accuse les classes dirigeantes de Juda, disant « Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs, ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin, la cause de la veuve jamais ne leur parvient. Malheur à ces législateurs qui font des lois injustes et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère pour refuser aux miséreux l'accès au tribunal, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. » On pourrait appliquer au chef des deux royaumes israélites les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Je continue le texte. « Vous dévorez leur chair et vous les dépecez, vous leur brisez les os et les mettez en pièces, tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite, oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. » Verset 3. Michée développe avec brio et violence l'image précédente. « Pour les grands, dit-il, Le petit peuple est comme un animal qu'on apprête pour le repas. On lui brise les os et on en fait un ragoût. Ézéchiel, qui a exercé son ministère avant et après l'exil de Juda, utilise aussi le cannibalisme à des fins de rhétorique. Il rapporte les paroles de Dieu qui lui a dit « Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître ? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. » Contrairement aux Cananéens, les Israélites n'étaient pas cannibales au sens propre du terme. Par contre, au sens figuré, les grands dévoraient bien les possessions des faibles, incapables de se défendre. Le psalmiste écrit « Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent, jamais ils n'invoquent l'Éternel. » Les victimes des méfaits des chefs du peuple étaient mises sur la paille, mais aussi agressées physiquement, voire tuées. Plus loin, Michée précise que les crimes de sang étaient répandus. Par contraste, des dirigeants dignes de ce nom auraient protégé le peuple et donné l'exemple par une vie droite et pieuse, entraînant la nation dans leur sillage. C'est ce que l'Éternel leur demandait. Le prophète Ézéchiel décrit en quoi ils agissaient mal. « Vous ne faites pas paître le troupeau, vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées, vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Mes brebis se sont dispersées faute de bergers et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. » David est l'exemple type du vrai chef. Dieu l'avait choisi alors qu'il s'occupait des troupeaux de sa famille et a fait de lui le berger de son peuple. Les Israélites de l'époque de Michée étaient trahis et exploités par leurs dirigeants, ce qui fut une des raisons du jugement de Juda. Ézéchiel écrit « Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. Je leur redemanderai mes brebis et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. » Je continue le texte de Michée. « Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas, il restera loin d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. » Verset 4. Michée fait référence à l'invasion assyrienne qui sera suivie 115 ans plus tard par celle des Babyloniens avec un nouveau siège de Jérusalem et la captivité. À cause des promesses que l'Éternel avait faites à leur ancêtre Abraham, les dirigeants de la nation ne croyaient pas que de tels malheurs les atteindraient. Grossière erreur. Comme cette catastrophe sera un jugement de Dieu, quand elle surviendra, il sera trop tard pour invoquer l'Éternel et inutile de crier à lui car il n'écoutera pas. Ce sera une juste rétribution pour ceux qui ont refusé d'écouter le cri des pauvres gens. Dieu n'aura aucune miséricorde envers ceux qui ont été sans miséricorde. L'apôtre Jacques écrit « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. » Comme les chefs du peuple se sont conduits comme des brutes épaisses, ils devront subir les conséquences de leurs actions viles, boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie, et payer jusqu'au dernier denier. Je continue le texte. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix s'ils ont quelque chose à manger et annoncent la guerre de la part de Dieu à qui ne remplit pas leur bouche. Verset 5. Dans les Écritures, le mot hébreu traduit par « avoir quelque chose à manger » veut toujours dire « mordre comme un serpent » et il est préférable de le traduire ainsi. On peut donc résumer les reproches que fait Michée aux faux prophètes de la manière suivante. Premièrement, quand ils annoncent la paix, c'est un mensonge qui a le même effet qu'une morsure mortelle. Deuxièmement, si on ne remplit pas leur bouche, alors ils disent la vérité en prophétisant la guerre de la part de l'Éternel. En fait, il semble bien qu'au tout début de leur ministère, ces faux prophètes parlaient vraiment au nom de Dieu, mais ils se sont corrompus en cours de route. La description que fait Michée de ces hommes fait penser à des gueules ouvertes qui cherchent quelqu'un pour les remplir. Ce sont des gens avides, toujours prêts à caresser les oreilles de ceux qui les nourrissent. Au lieu de dénoncer le péché comme de vrais serviteurs de Dieu, ils ne sont rien de plus que des diseurs de bonne aventure. Ils annoncent un avenir radieux aux grands qui les payent grassement, prophétisant qu'il n'y aura pas de jugement et que la paix et la prospérité dureront indéfiniment. Mais comme les bonnes nouvelles ont un prix, les faux prophètes n'ont que des mauvais présages à dire à ceux qui sont trop intègres ou trop pauvres pour rétribuer leurs belles paroles. On pourrait leur appliquer les paroles de l'apôtre Paul quand il dit « Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Grand serviteur de Mammon, le dieu de l'argent, ce sont les avant-coureurs des chefs religieux du premier siècle auxquels Jésus a dit « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Tout au long de l'histoire d'Israël, les prophètes fidèles à l'Éternel mettaient régulièrement le peuple en garde contre les faux prophètes. Je lis quelques passages. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent, ils disent « L'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix ». Et à tous ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent « Le malheur ne vous atteindra pas ». Tes prophètes ont eu pour toi des révélations mensongères et insipides. Ils n'ont pas dénoncé tes fautes pour t'éviter l'exil. Oui, ils ont eu pour toi des révélations mensongères et illusoires, car ils égarent mon peuple en annonçant la paix quand il n'y a pas de paix. Ils se contentent de crépir le mur que mon peuple a bâti. Les faux prophètes avaient un auditoire parce que leur génération voulait la paix et aujourd'hui encore, tout le monde veut la paix. Seulement, la vouloir et répéter sans cesse qu'elle est presque là ne va pas la créer. L'un des mensonges les plus répandus est que l'homme est capable d'instaurer la paix en ce monde. L'histoire de l'humanité, dont nous avons des traces certaines, remonte à 6 ou 7 000 ans. Et comment peut-on la résumer? À une longue série de luttes fratricides, de guerres entre nations, entre tribus, entre familles et entre individus. Dans sa prophétie, Ésaïe dit deux fois « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Et Jérémie, puis Ézéchiel disent deux fois « Il n'y a pas de paix ». L'homme ne pourra jamais établir la paix sur la planète Terre parce qu'il refuse de faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Nous ne réalisons pas combien nous sommes foncièrement méchants, et c'est d'ailleurs l'une des preuves que nous ne descendons pas de l'animal. En effet, l'homme est bien plus sauvage et cruel que n'importe quel animal. Le lion ou l'ours mâle solitaire tue sa propre espèce, c'est vrai. Mais ni l'un ni l'autre n'est aussi vicieux que l'homme. La paix sur terre sera seulement établie quand le prince de la paix, Jésus-Christ, viendra pour instaurer son royaume de paix.